Guermann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 6 août 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine? Puis peut-être qu'on peut parler un peu du mois de juillet aussi.
On a eu une fin de mois quand même assez mouvementée. Mercredi dernier, la Réserve fédérale a annoncé qu'il laissait les taux d'intérêt inchangés en raison de la force de l'économie américaine. Donc, le marché n'a pas super bien apprécié la nouvelle, surtout les commentaires de Powell après la réunion qui mentionnait là, que, bon, pour l'instant, il n'y avait aucune raison de baisser les taux d'intérêt. M. Trump n'en était pas très heureux, d'ailleurs. Vendredi, on a eu les chiffres d'emploi pour le mois de juillet aux États-Unis qui sont sortis. Le marché s'attendait à un chiffre d'environ 106 000 emplois créés. On a eu 73 000, donc moins fort que prévu. Par contre, il y a eu aussi une révision à la baisse des chiffres de mai et de juin, et pas des petites révisions. Là, on avait annoncé en mai 144 000 emplois, on a révisé le chiffre à 19 000 seulement, et en juin, on a révisé de 147 000 à 14 000. En tout, c'est 258 000 emplois de révision à la baisse. Donc, le marché, là, immédiatement, a réagi très négativement vendredi avec une forte baisse. Et là, on a passé la fin de semaine, on a relaxé, on a respiré par le nez. Et là, lundi, on s'est dit, si les emplois sont si mauvais que ça, peut-être qu'on va avoir des baisses de taux, finalement. Et là, le marché a complètement renversé la tendance et réaugmenté là, fortement lundi. Donc, vraiment, là, c'était des montagnes russes. Qu'est-ce que ça donne au niveau du marché? Bien, le mois de juillet s'est quand même terminé très bien avec une hausse de 1,7% pour le mois sur le TSX, 2,24% pour le S&P 500, 3,75% pour le Nasdaq. Pour le mois d'août, on est donc légèrement en baisse, là, étant donné que le chiffre d'emploi commençait vendredi. Hausse, baisse, hausse. Donc, on est flat sur le TSX, moins 1% du côté américain. Les taux d'intérêt ont réagi, donc suite au chiffre d'emploi, les taux d'intérêt aux États-Unis ont baissé. On est passé de 4,33 à 4,20. Ça a l'air insignifiant, 0,13, là, mais sur une obligation de 10 ans, ça fait quand même un mouvement qui est significatif. Le Canada a aussi réagi là, avec une baisse. Donc, les taux d'intérêt 10 ans ont baissé à 3,4 versus 3,48. Le dollar canadien est resté, là, bon, légère hausse, là, mais quand même pas très élevé. Qu'est-ce que ça donne du côté des indices obligataires? Bien, sur la semaine, l'indice XCB, là, l'indice des obligations corporatives, en hausse de 1,5% durant la semaine. Donc, vraiment un très bon chiffre pour ce qui est des obligations. On est en pleine saison des résultats financiers. Ça se poursuit, là. Il y a quand même une bonne proportion qui est sortie. Pourquoi la bourse va bien là, depuis quelques mois? Ben, on dit toujours que la valeur des actions en bourse reflète les profits des entreprises. Le marché s'attendait à une croissance des bénéfices moyenne entre 5 et 6 % année sur année. Jusqu'à maintenant, on est à une croissance de 10 %, donc presque deux fois plus que prévu. En moyenne, les bénéfices ont dépassé les attentes des analystes de 8 % et dans 82 % des cas, les bénéfices ont été plus élevés que les estimés. C'est la plus haute proportion d'entreprises qui a battu les estimés depuis le deuxième trimestre de 2021. Donc, on a beau lire les nouvelles puis s'inquiéter de Trump et tout ça, mais fondamentalement, les entreprises font des bénéfices et les actions des entreprises reflètent la croissance de ces bénéfices-là. On n'est pas surpris, là, c'est les compagnies de technologie et de communication aux États-Unis, là, les MagSet, là, donc les Google, Amazon et ainsi de suite là, qui ont battu le plus.
Parfait. Merci beaucoup, Martin. Puis la réalité, c'est qu'il ne faut jamais oublier que quand on lit les nouvelles, le but des journaux, c'est qu'on retourne lire les nouvelles. Et comment faire ça? Ben, nous faire un petit peu peur. Donc, merci beaucoup. Puisque c'est l'été, il fait beau. Martin, toi et moi, on voulait enregistrer un balado un petit peu plus léger aujourd'hui. Mm-hmm. Les gens sont en vacances. Donc, nous allons prendre le temps de démystifier certains des mythes financiers que nous entendons régulièrement dans le cadre de notre travail. Donc, du cadeau d'argent à l'assurance voyage en passant par les impôts sur le chalet. Fait qu'on entend toutes sortes de choses qu'on dit « c'est pas vraiment vrai, ça ».
Ouais.
Donc, que vous planifiez une escapade ou que vous souhaitez simplement briller lors de vos prochaines retrouvailles familiales, cet épisode est pour vous. Donc, Martin, est-ce que tu es prêt à te prêter au jeu?
Allons-y.
OK. C'est parti. Vrai ou faux, on ne peut pas donner plus de 10 000 $ en cadeaux par année au Canada?
Bien, c'est faux. Il n'y a pas de limite sur les dons qu'on peut faire. On peut donner l'argent qu'on veut. Ça peut être 100 000 $, ça peut être une grosse valise en argent comptant, ça peut être un chèque en papier, ça peut être un virement Interac. Il n'y a pas de limite. Le petit bémol qu'il faut faire ici, donc ce n'est pas illégal de donner, mais il y a quand même au niveau fiscal certaines règles d'attribution. Donc, si j'ai un plus haut salaire que ma conjointe, et là, ben moi, j'ai plein de placements, puis là, je dis, ah, ben tiens, ma conjointe paye moins d'impôts, fait que je vais lui donner de l'argent, puis elle va investir et elle va générer des revenus de placement. Donc, il y aura règle d'attribution et les revenus imposables seront attribués au donneur si je donne à ma conjointe ou à mes enfants mineurs. À mes enfants majeurs, aucun problème. C'est l'enfant qui va être imposé. Évidemment, si ma conjointe prend l'argent et elle le met dans son CELI, ben, comme il n'y a pas de revenu imposable dans un CELI, ben, il n'y aura pas d'impôt. Donc ça fonctionne. Je peux donner à des neveux, des nièces, des amis, à n'importe qui. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune règle qui interdit. C'est tout à fait légal de donner.
Puis ça, c'est un point important hein, qu'on a vécu. C'est important de prendre l'argent, de le mettre dans le compte, exemple, non enregistré de ma conjointe. Et ensuite, c'est ma conjointe qui va faire la contribution CELI au lieu de le faire directement.
Exact. Là, techniquement, on ne peut pas cotiser au CELI de sa conjointe. Donc, il faut d'abord donner l'argent. C'est juste une ouais. mécanique de
transfert. Puis même chose pour les enfants, etc. Exact. Parfait. L'autre qu'on entend souvent, vrai ou faux, je ne peux pas déposer plus de 10 000 $ en argent comptant à mon compte ou passer par les douanes avec plus de 10 000 $.
Ouais, c'est complètement faux. Évidemment, on doit le déclarer. Donc, on n'a pas le droit de passer les douanes. Quand le douanier nous dit « Avez-vous plus de 10 000 $ sur vous? » Il faut dire « Oui, si c'est le cas. » Ce n'est pas illégal. Ils vont, par contre, nous dire « Ben, un, pourquoi? D'où vient l'argent? » On doit déclarer. La même chose si je vais à la caisse ou à la banque déposer une poche d'argent de 25 000 $ le CANAFE, donc le Centre d'analyse des transactions financières qui vise à contrer le blanchiment d'argent et le recyclage des produits de la criminalité, les institutions financières ont l'obligation de faire une déclaration au CANAFE. Donc, on doit simplement déclarer la provenance des fonds. Et ce n'est pas illégal de faire des transactions en argent comptant. C'est tout à fait correct. Je peux vendre ma voiture, puis pour pas que la traite bancaire soit gelée à la banque, je pourrais dire à l'acheteur, ben non, moi, je vais être payé cash 25 000 $. Je vais à la banque, je dépose mon 25 000. Ben, je vais déclarer que j'ai fait une transaction. Cette déclaration-là va être envoyée au CANAFE et analysée. Si votre nom sort à tous les 4 jours au CANAFE, vous allez peut-être avoir des problèmes.
Ça peut être problématique,
évidemment. Mais de faire une transaction en argent comptant là, à tous les 10 ans, là, c'est quand même assez exceptionnel là, qu'on va déposer des gros montants.
Mais ta mère, elle a gagné au bingo, hein, une fois 30 000 $.
Exact. Elle s'est présentée à sa caisse, puis elle a déposé le 30 000 en cash, puis elle a gagné au bingo. Ouais. Elle paye cash là, où elle était. Donc, elle s'est promenée avec 30 000 en cash et c'est tout à fait correct. Et en même temps, les institutions financières ont des mécanismes pour détecter, tu sais, si on fait ce qu'on appelle du smurfing, là, du schtroumpfage, donc d'aller déposer des petits montants toutes les semaines, là, tu sais, ça marche pas, là, OK? Les institutions financières ont les instruments informatiques. La Banque TD l'a appris à ses dépens l'année passée.
Puis la réalité, c'est qu'on est toutes formées là-dessus. Hein? Exact. Donc, à chaque année, on prend plusieurs formations sur le sujet. Donc, peut-être pas une bonne idée.
Tout à fait légal de recevoir de l'argent comptant, tout à fait légal de le déposer. On doit déclarer la provenance. Évidemment, si la provenance, elle est illicite, ben, on n'a pas le droit d'avoir de l'argent illicite. Hein, on s'entend.
Donc, vrai ou faux, toutes les assurances voyage sont pareilles.
Ça aussi, c'est faux. Et particulièrement au niveau des cartes de crédit, là, les conditions. Donc, souvent, dans notre carte de crédit, là, si on a une carte avec un frais annuel, il y a une assurance voyage qui est inclus là-dedans. Très important de lire les conditions, particulièrement quand on avance en âge, particulièrement au niveau des conditions préexistantes. Donc, si j'ai eu un petit ennui de santé, là, il y a un mois ou deux, je suis allé chez le docteur, puis le docteur a dit « Non, tout est parfait, go. » Ben, puis si j'arrive en voyage, puis j'ai encore un ennui de santé qui est relié de près ou de loin à ça, probablement que mon assurance ne va pas couvrir. Donc, très, très important, là, prenez pas pour acquis, lisez les petits caractères. Si vous avez plus de 75 ans, double-lisez les petits caractères parce que vous êtes probablement plus couvert par votre assurance, soit avec l'assurance auto, là, souvent il y a une assurance voyage qui vient avec ça, les cartes de crédit, donc très important. Si on voyage vraiment souvent, ou pour les snowbirds là, qui s'absentent, des fois de faire affaire avec un courtier puis d'aller chercher une assurance privée spécifique, c'est probablement une bonne idée là, de ne pas juste se fier que ça arrive juste aux autres de toute façon. Il n'y a pas d'assurance maladie aux États-Unis. Là, si vous avez ça, pas bien assuré puis vous avez un malaise, vous pouvez vous ruiner carrément.
Oui. Donc, oui. J'ai connu des gens qui avaient de l'assurance mais qui ont été très malades aux États-Unis et quand ils ont vu c'était quoi la facture, ils étaient bien contents d'avoir l'assurance.
Donc, très, très important, le diable est dans les détails. Lisez vos contrats d'assurance. Pas une fois arrivé, il est trop tard avant de partir.
Voilà une que j'ai eue récemment. Vrai ou faux? Si je loue mon chalet seulement quelques semaines par année, j'ai pas besoin de déclarer ça?
Ben non. Ben oui, il faut tout déclarer. Donc, on a l'obligation de déclarer l'ensemble de nos revenus mondiaux qu'on loue pendant une semaine, 10 jours, 52 semaines. Si j'ai reçu un revenu de location, je me dois de le déclarer au fisc et de donc payer les impôts. Par contre, évidemment, ben, si j'ai loué le chalet un mois dans l'année, donc un douzième de la durée, ben, j'ai le droit de déduire aussi un douzième des taxes municipales, un douzième de l'électricité, ainsi de suite, donc les frais y afférents. Donc, c'est pas que les revenus qu'on va déclarer, on va aussi déclarer les dépenses qui nous ont permis de gagner ce revenu-là. Mais oui, là, il faut effectivement déclarer tous nos revenus.
Puis garder des registres pas mal précis là-dessus, hein, je
pense. Exact. Donc, c'est une bonne idée. Et au même titre, là, si on parle de chalet, tu sais, vous faites des travaux, vous faites des rénos, gardez vos factures, mettez ça dans un fichier Excel, gardez l'historique des dépenses que vous avez faites sur, par exemple, le chalet, parce que si éventuellement, bon, si on le vend, le chalet, on veut calculer le prix de base rajusté, c'est important d'avoir les pièces justificatives pour indiquer que oui, j'ai payé le chalet 100 000, mais j'ai fait un deuxième étage pour 50 000, puis j'ai changé ici, puis ça. Donc, tu sais, mon prix de base n'est pas 100 000, c'est 100 000 plus toutes les dépenses en capital que j'ai fait pour améliorer le chalet au fil des années.
Donc, ça sauve de l'impôt.
Exact.
Donc, un autre sur les chalets. Vrai ou faux, il y a toujours des gains en capital quand on transmet le chalet familial.
Ouais, ça, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas parce qu'on l'appelle le chalet que ce n'est pas la résidence principale. Donc, le choix de la résidence principale, il n'est pas déterminé en fonction de laquelle des maisons est le plus loin de l'eau. Tu sais, c'est pas parce qu'une maison est sur le bord de l'eau que c'est forcément un chalet. Là, je dis ça un peu à la blague. Par exemple, si je suis propriétaire de ma résidence principale pendant 20 ans, puis là, ben, il y a 10 ans, j'ai acheté un chalet. Okay? Donc, ça fait 20 ans que je suis propriétaire de ma maison, puis depuis 10 ans, là, donc j'ai deux maisons. Et là, je décide de vendre la résidence principale. Bien, je devrais faire l'étude à ce moment-là de dire, bien, j'ai encore mon chalet, mais j'ai vendu ma résidence principale que j'ai depuis 20 ans. Je pourrais dire, tu sais quoi, depuis 10 ans, là, c'est le chalet, ma résidence principale, parce que c'est la propriété entre les deux qui a pris le plus de valeur. Donc, je vais m'imposer sur ma résidence principale. Donc, j'ai été pendant 10 ans, c'était ma résidence principale. Puis là, pour la deuxième tranche de 10 ans, ben là, j'identifie le chalet comme ma résidence principale. Donc, je vais m'imposer sur la moitié du gain. Donc, je calcule mon gain en capital. La moitié de ça est attribuable comme étant résidence secondaire parce que j'ai choisi mon chalet comme principal. Et donc, je vais payer la moitié du gain et 50 % de taux d'inclusion. Right? Okay. Et là, quand je vendrai le chalet, ben là, mon chalet va être exempté d'impôts parce qu'il sera ma résidence principale au complet. Fait qu'il y a vraiment un choix, là. C'est au moment de la vente, c'est pas pendant que je vis dedans que je décide c'est quoi ma résidence principale. C'est au moment de vendre la propriété, je dois désigner les années civiles auxquelles cette propriété-là était ma résidence principale. Et la même année ne peut pas avoir deux propriétés.
Puis je pense que c'est une bonne idée de consulter un comptable quand on fait ces choix-là. Ouais.
Je vous ai simplifié un peu la chose. Oui. Si c'est 10 ans sur 20, c'est pas exactement moitié-moitié. Là, il y a un calcul avec un plus 1 dans l'équation.
C'est ça.
Mais quand même, là, ça
puis, donne, puis il y a des outils de planification successorale que les gens peuvent utiliser s'ils ont des chalets qui valent plusieurs centaines de milliers de dollars, puis ils veulent trouver une façon de le transmettre à la famille.
Mais la règle du pouce simple, là, c'est, tu sais, on devrait désigner comme résidence principale la propriété qui a le plus gros gain en dollars. C'est essentiellement, c'est ça.
Parfait. Merci, Martin. Vrai ou faux, je vais vendre ma propriété locative à mes enfants. Je peux vendre ma propriété locative à mes enfants pour un dollar, puis je vais sauver de l'impôt.
Ben oui, absolument.
C'est mais celle-là, on l'entend souvent parce que c'est une mythe d'il y a quand même assez longtemps.
Donc, une transaction à un dollar, là, je vais vendre le chalet à un dollar, je vais vendre mon duplex à un dollar là, aux enfants. Ça, c'est la pire mauvaise idée à faire. Les autorités fiscales ont pensé à tout. Et là, vous faites un immense tort et vous faites aussi à vos enfants un immense tort. Comment fonctionnent les prix déterminés au niveau fiscal? Donc, quand je vends une propriété à une tierce partie ou à un enfant, je suis présumé l'avoir vendu au plus élevé du prix réel ou de la valeur marchande. Donc, ben, c'est certainement ça vaut plus qu'une pièce. Donc, si ça vaut plus qu'une pièce, donc je vais la valeur au marché, c'est 500 000, j'y ai vendu une pièce, je vais être présumé l'avoir vendu 500 000 et payer les impôts en fonction de cette valeur-là. Du côté de l'acheteur, lui, c'est l'inverse. L'acheteur est réputé avoir acquis la propriété au moindre du prix réel ou de la valeur marchande. Donc, votre acheteur, lui, vient de payer une pièce pour une propriété qui en vaut 500 000. Fait que vous allez payer l'impôt sur le gain de 500 000 parce que vous êtes réputé l'avoir vendu 500 000, mais votre enfant aussi va payer de l'impôt sur 500 000 parce qu'il va être réputé l'avoir acheté à 1 $. Donc, il en résulte une double imposition sur le même montant. C'est la pire idée. Faites jamais ça. Il n'y a plus un notaire qui va accepter
de faire ça. C'est une belle façon de briller au barbecue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une bonne idée.
Ouais.
Vous pourriez leur dire.
Oui, les transactions à 1 $, là, ça, c'est, on entend ça des histoires de grand-mère. Puis oubliez ça, là, ça ne fonctionne pas.
Oui, exactement.
Pas ça.
Fait que vous pouvez dire aux gens les choses réelles. Donc, merci beaucoup, Martin, de t'être prêté au jeu. Si vous voulez discuter de ce balado ou de vos objectifs ou besoins financiers personnels, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.